Dynamique Radio, Dynamique Radio, Dynamique Radio, c'est la radio pour tous.
Dynamique Radio, bonsoir, on est de retour dans la Libre Antenne.
Ouais.
Et oui, Libre Antenne, avec Jane, Stan, wow. J. Warner, et puis bah Colonel.
Ah, mais magnifique, que la lumière soit.
Bonsoir, Colonel. Alors, vous
bonsoir.
Allez nous éclairer. Hein,
que la lumière soit pour toi, Fred.
Sur EDF.
Nous avons un
d'électricité. Un peu d'électricité.
Branché EDF.
Ah, il est branché, il est chez moi.
Il est chez moi.
Jane, est-ce que
tu
le courant passe?
Est-ce que le courant passe?
Oh, le courant passe.
Oh. Oh là là.
Oh non, il y a un court
circuit. Attention,
oh là là,
attention.
Ah, il y a un court circuit, ça y est, ça a pété.
Ça y est, c'est dans la tête que ça.
Non, mais attends, elle est, les plombs
mais
ont sauté.
Qu'est-ce que t'as gratté ton sein, toi?
Eh, t'as entendu? Les plombs ont sauté.
Oh, ouais,
les
plombs ont sauté. Ah bah, ouais. Allez, on continue. Avec
il faut réarmer le.
Avec
le disjoncteur. Allez, court circuit. Il y a le feu. Il faut réarmer le disjoncteur.
Colonel qui est... Voilà, alors, colonel, on rigole,
si
mais on picole.
Si vous voyez le colonel, il a des yeux polissons, il est coquin. Heureusement qu'il a un casque sur les oreilles.
Ah, Jane,
parce que là, il a pris la court-circuit. Hein.
Femme de militaire, t'as vu ce que ça
donne.
Ah, toujours attiré
mais
par...
Il faut
par l'uniforme.
Par le drapeau.
Non, mais c'est important que le courant passe. Hein.
Ah bah ça, ah, bah, il faut que ça passe.
Parce que les boulangers aujourd'hui... Il faut comment?
Ah bah si, ils payent cher leur abonnement.
Les boulangers, ils font comment?
À l'ancienne.
Bah ils peuvent pas faire
si,
sans.
À l'ancienne.
Bah comment à l'ancienne?
Ils font pédaler.
Ah, comment
tu fais du pain?
Et comment
ils
font
du dynamo? Tu sais comme les vélos.
Ils font pédaler.
Non, mais attends,
pour
il faut pas se moquer
dynamo.
D'eux. Hein. Faut les respecter.
Ah, tu vois, tu te moques
sûr,
des.
Mais s'il te plaît, est-ce que tu veux bien respecter des boulangers?
Au pilori. Tu peux le mettre au trou, colonel?
Après oui, il y a la cuisson au feu de bois éventuellement.
Fred, c'est ton boulot ça.
Il y a la cuisson au feu de bois.
Tu m'as dit que tu avais mis un petit cachot à côté là.
Mais il va falloir.
Henri.
Avec un fouet.
Comme il m'a prêté de l'argent.
Au fond, il y a le frigo à côté.
Avec un fouet.
Colonel.
Avec un
au feu de bois.
Bon.
Au feu de bois.
Non, sérieusement là, les boulangers.
C'est vrai.
Mais il y a pas que. Mais pas que.
S'il te plaît. Les boulangers, les teinturiers.
Il y a mon fils qui est boulanger pâtissier.
Ah, raconte, dis-le.
Ah, bah, raconte-nous, tiens.
Eh bien, ça coûte cher. Hein,
C'est-à-dire combien par mois
Ah, bah là, j'ai pas fait les statistiques, j'ai
non,
pas
mais
demandé.
Non, mais attends, c'est une augmentation
c'est
de 40 à 50%.
Mais pourquoi
que tu peux pas répartir sur la baguette, naturellement. Mmh.
Bah oui, puisque c'est un prix.
Oui, mais je vous signale qu'il y a un député qui a dit qu'il fallait investir en électricité quand même si ça coûtait cher.
Le courant doit passer. Hein.
Ah ouais.
À tout prix. Alors, que se passe-t-il?
Alors, la question se pose effectivement du bilan de l'EDF et de voir qu'effectivement, déjà en 2000, c'est un livre là de 2000 sur la décomposition des nations européennes. Et là, on voit déjà à l'époque les alliances qui se faisaient de manière surprenante parce que tout le monde connaît en France le coup franco-allemand. Mmh. Depuis effectivement
la fin de la dernière guerre,
la volonté, je dirais, du général de Gaulle et d'Adenauer, etc., que l'Europe soit pacifiée et qu'on évite de nouveaux conflits. L'objectif, c'est si on se tient la main, si on se parle et si on essaye de mettre en commun un certain nombre de choses, eh bien, on évitera de nouvelles guerres. Bon. Et je prends un exemple là, ça s'est passé le 27 février 2004. Il y a eu. Entre le président Bush et le chancelier Schröder, un accord qui a été signé à la Maison-Blanche, un accord germano-américain, c'est le premier pour le XXIe siècle. Et personne n'y a fait vraiment attention, et ce pacte, qui a fait la une de tous les journaux allemands et anglo-saxons, n'a jamais été relevé ni dans la presse française, ni à la télévision, ni nulle part. Bon. J'en parle pourquoi ? Parce que les conséquences, je dirais, c'est que la belle entente voulue entre la France et l'Allemagne a été biaisé par, je dirais, nos amis américains qui ont effectivement...
Anti-américanisme primaire.
Non, j'aime beaucoup les Américains, mais je dois reconnaître qu'ils sont très habiles pour défendre leurs intérêts.
Bah oui, bien
et
sûr.
Et que le premier principe donc, du département de la défense américain, c'est la défense de l'économie américaine.
Ah bah
et
oui.
ce n'est pas la paix. Ce n'est pas rétablir la paix.
C'est le dollar.
C'est défendre l'économie américaine.
Alors, bah là,
c'est la première réflexion. Deuxième réflexion. C'est que d'un mal, il en sort toujours un bien, et que si on sème le mal, on récolte le mal. Et je pense que nos amis allemands, qui avaient quand même, je dirais, des engagements vis-à-vis de la France, non seulement n'ont pas tenu leur engagement, puisqu'ils se sont engagés avec les Américains, ce qui veut dire au service de l'économie américaine et non pas de l'économie française et de l'économie portugaise, de l'économie belge, de l'économie, etc. Et ils ont donc torpillé on peut le dire aujourd'hui. L'Union. C'est pas moi qui dis ça aujourd'hui. Ce sont donc des experts, et je peux donner des noms.
Donne des noms.
Oui, tout à fait. Le dernier, un des directeurs qui a été à la commission de l'Assemblée nationale pour la commission d'enquête sur les problèmes d'EDF, ils ont clairement dit que les Allemands avaient torpillé la capacité de l'énergie en France. Mmh. Donc on avait une puissance en France grâce à EDF qui était capable de gérer les réseaux, de gérer la production avec toutes les centrales nucléaires à un coût extrêmement faible. Et aujourd'hui...
Ce serait d'ailleurs encore le cas si...
Exactement. Alors, on va en parler. C'est pour ça que je voulais un petit peu en parler. C'est de faire un petit bilan. Et aujourd'hui, il est intéressant de savoir, c'est qu'il y a eu 18 milliards de pertes l'an dernier pour EDF. 18 milliards de pertes.
Alors que normalement, EDF, justement, le marché restreint, devrait être... voilà, il devrait y avoir 30 à 40 milliards de gains.
Alors, c'est sûr que les Espagnols et les Portugais se sont mis en dehors, je dirais, de la clause qui fait que le coût de l'électricité en France est indexé sur le gaz.
Oui.
Et ça, c'est une démarche qui fait que... des Allemands, déjà, en plus, pour torpiller. Et il y a torpillage, je dirais, par le gaz, torpillage par le nucléaire, torpillage par l'écologie, on va en parler. Alors, donc, 18 milliards de pertes.
Pour EDF, hein.
Oui, voilà. Pour EDF, voilà.
Alors que les prix pratiqués sont incroyablement hauts.
Et... Où va l'argent ?
Et il y a une dette donc de EDF est de 65 milliards d'euros.
Donc une dette de 65 milliards d'euros, voilà. Et un déficit annuel de 18 milliards.
Et donc effectivement, il va falloir en plus...
Super EDF, ils ne sont pas sur le marché des actions, hein, rassure-moi.
Surtout, merci tous ceux qui ont torpillé EDF, parce que EDF était un joyau qui produisait bien sûr l'électricité,
oui, bah...
et qui en plus donnait à la France une capacité... d'exporter des centrales nucléaires à l'étranger. Et donc, c'était une capacité d'exporter du savoir-faire français, des ingénieurs français, des ouvriers français.
Quand on rentrait à EDF, on savait qu'on y restait toute notre vie et qu'on était dans une belle boîte, une bonne boîte qui faisait de l'argent.
Oui, et qui en plus, ils étaient heureux. C'est-à-dire, vous voyez, j'ai vu des ouvriers qui étaient heureux. Les gens qui travaillaient à l'électricité de France, ils étaient très heureux. Et j'ai rencontré la semaine dernière, devant chez moi, il y avait des travaux de GRDF, un ancien des Gaz de France, qui était 31 ans Gaz de France. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'on était bien.
Et on travaillait bien.
Et il me dit, maintenant, c'est tout divisé, c'est compliqué, on a divisé les sociétés, à chaque fois, on ne se parle plus.
On a libéralisé le marché aussi.
Je lui dis, voilà, il y a un problème sur mon compteur. Il m'a dit, mais le compteur, c'est plus moi. Donc c'est un autre prestataire.
C'est de la sous-traitance.
Voilà. Et donc, entre le compteur et... La canalisation, il y a un tuyau, il y a un raccordement, il y a un bouchon. Le bouchon ne fonctionne pas, c'est encore une autre.
Oui, c'est de la sous-traitance à outrance.
Mais c'est une autre. Voilà. Ouais. Et là, ça fait des surcoûts. Et parce que l'intelligence des réseaux, c'est comment effectivement bien mettre en place un réseau. Ça, c'était le fait qu'il y avait une vision globale.
Oui.
Alors, EDF n'a plus cette vision globale. Mmh. Et aujourd'hui, pour revenir au bilan, eh bien, on s'aperçoit qu'il y avait effectivement des. Il y a dans l'avenir à financer de nouvelles centrales. Il y a financé effectivement aussi la remise en place de la maintenance de tous les réacteurs, etc. Alors si on fait un petit bilan en arrière, donc si on regarde effectivement ce qu'on aurait pu gagner, voilà. Alors on va tout de suite regarder ça tout de suite. C'est le premier problème, c'est l'indisponibilité du nucléaire. Actuellement, il y a toutes ces 11 réacteurs en maintenance qui sont indisponibles.
Indisponibilité.
Supposons qu'ils n'aient pas été indisponibles.
Et qu'ils le soient.
Supposons qu'ils soient disponibles.
EDF aurait été bénéficiaire, sans doute.
Alors, justement, de combien ? C'est la question. Donc, il y a un calcul qui a été fait donc, par les experts.
C'est ça.
Voilà, et qui montre que si on n'avait pas arrêté ces réacteurs, cela aurait rapporté 22 milliards d'euros en 2022.
Donc, du coup, cette EDF aurait été bénéficiaire de 2 milliards d'euros.
Il n'y aurait pas eu de perte. 22 milliards d'euros. Ensuite, il est vrai aussi qu'il y a un deuxième problème, c'est qu'il y a eu l'obligation faite par EDF de brader son électricité à des concurrents.
Pour les directs d'énergie.
42, alors 42 euros le mégawattheure. Et si on n'avait pas bradé, on aurait...
Au prix du marché actuel.
Voilà. Et donc le prix du marché actuel, c'est combien ? C'est
175
euros le
mégawattheure. Et eux, ils le vendent à 42 à ces sociétés. Alors, ils sont françaises aussi.
À des pays. On vend à des pays. À l'Allemagne.
Ok. À ce prix-là, à 42.
Bien sûr.
D'accord. Ah ouais, ça.
On vend actuellement.
Écoute.
La France a l'obligation de vendre à 42 euros, alors qu'elle pourrait le vendre à 175 euros. Si on l'avait vendu à 175 euros, on aurait eu un gain en 2022 de 28 milliards d'euros.
D'accord. Ok. Donc,
faut bien l'entendre.
Donc,
ça,
société bénéficiaire.
Ouais.
De ouf.
Voilà. Troisième poste. EDF était obligé de racheter 91 euros le mégawatt d'électricité d'origine éolienne. Quand il y a de l'électricité d'origine éolienne, EDF le rachète à 91 euros le mégawatt.
Ils sont obligés de racheter le
courant
éolien.
Ils sont obligés de racheter. Tout à fait. Tout à fait.
Mais sont
il est produit par les sociétés d'éoliennes.
Voilà.
Mais donc, attends, écoute bien ce que je vais t'expliquer. Ils sont dans l'obligation de racheter cette électricité,
91, ouais.
Mais ils ne peuvent pas la revendre dans le marché.
Oh. Donc ils se le gardent et c'est perdu.
Donc ça revient à l'État à 7 milliards d'euros.
Ok. Donc
c'est un coût, une perte de 7 milliards d'euros. On aurait pu gagner 7 milliards d'euros si on n'avait pas à racheter la production électrique des éoliennes.
D'accord.
Ça va loin.
Ah bah oui, là.
Il faut bien le savoir. Donc c'est très important.
Donc si tu fais
ça veut dire quoi ? Si on fait le total,
voilà,
il y a un manque à gagner en 2022 du fait, je dirais, de l'explosion du prix spot du marché qui va s'élever à 57 milliards d'euros.
Si on fait le calcul des 28, des 7 et des trucs.
Oui.
Et combien tu dis ?
Donc 57 milliards d'euros.
Donc tu payes la dette.
Est-ce qu'on est obligé d'acheter les éoliennes ?
Alors, c'est une bonne question. Voilà. Et donc...
Ah, du coup...
Quelle est la part des éoliennes dans le mix énergétique de la France ? Est-ce que tu le sais ?
Aujourd'hui, la part
des éoliennes,
il est minime. Il sera grandissant.
Combien,
mais
combien ?
Allez, c'est 3%, 2%.
Même pas.
Et on l'a racheté quand même.
C'est 1,6%.
Donc elle ne nous est pas vraiment utile.
Et quelle est la part du nucléaire ?
Ben,
40%.
Alors, pourquoi il y a eu une période, je me souviens du nucléaire, mais il y a très très longtemps en arrière, tout le monde manifestait contre le nucléaire. Ça a été infernal.
Alors,
ça, c'est une connerie des écolos, ça.
D'où vient effectivement donc cette démarche, il faut
c'est
le savoir,
écolos.
Elle vient, où y avait-il des antinucléaires et où y avait-il effectivement...
Donc ils ont détruit une partie de la France, en fin de compte.
Ils ont, en gros, c'est comme le ver qui a pénétré dans le fruit.
Oui, c'est la même
chose.
Non, ils considèrent, Henri, que c'est les écologistes qui sont pro-allemands, entre guillemets, qui sont issus de l'Allemagne.
C'est l'inverse. Je vais te donner l'origine.
Ils sont allemands.
L'origine, il faut bien entendre l'origine. L'origine, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a l'Ouest et l'Est, et il y a le mur de Berlin.
Mais
donc,
il
y a le pacte de Varsovie d'un côté, et tous les pays qui sont sous, je dirais, l'obédience de l'Union soviétique. Et il y a d'autre côté les Occidentaux, l'Allemagne, les Américains, la France, etc.
Mais le green, ça vient d'Allemagne.
Alors je vais préciser, c'est que dans ce conflit de guerre froide entre l'Est et l'Ouest, chacun a joué ses cartes. Les Soviétiques ne supportaient pas que les Américains mettent des armes nucléaires en Allemagne. Et ils ont tout fait pour discréditer... Le positionnement d'armes nucléaires en Allemagne. Donc, les services secrets soviétiques, le KGB, entre autres, et le GPU, ont infiltré en Allemagne un certain nombre de personnes. C'était facile, puisqu'ils avaient des Allemands de l'Est qui parlaient parfaitement allemand, qui ont infiltré en Allemagne de l'Ouest avec un objectif, c'est de déstabiliser effectivement la présence américaine, la présence militaire et la présence des armes nucléaires en les discréditant. Et donc ça a donné lieu à un certain nombre d'ONG, d'organisations à droite, à gauche dans l'Allemagne, qui avaient pour objectif d'être écologistes, au sens nous sommes des Verts et on veut absolument protéger la nature, on ne veut la paix et on ne veut pas la guerre, et donc on ne veut pas de nucléaire. Et ça, ce discours, on l'a entendu pendant 30 ans.
Mais il y a des gens qui le pensent réellement.
Celui qui, en 1968, a été, je dirais, le bras armé de ces écologistes, c'est qui ?
C'est notre ami...
Cohn-Bendit a été le bras armé en France de cette, je dirais, de cette philosophie et surtout de cette manipulation. Et je pense qu'il y a un certain nombre de gens comme Cohn-Bendit et bien d'autres qui étaient marxistes-léninistes, ils n'ont même pas vu qu'ils étaient manipulés par les soviétiques.
En fait, c'est
QI0
C'est du domaine de l'inconscient.
Parmi des étudiants en université, tu arrives à séduire, si tu veux, les étudiants.
Sans qu'ils le sachent même.
Très facilement, aujourd'hui, des jeunes, tu sais, tu peux les séduire par des grandes idées, avec un grand idéal, des grandes philosophies, avec des grandes paroles, un enthousiasme.
Pas forcément des neuneux.
Si, ils croient comme il croit, il croit. Voilà,
mais si tu veux, il faut situer dans l'après-guerre.
L'intelligence, elle est assez basse.
Hein. Elle est déconnectée, là, Jane.
Bah, Jane, elle est...
Elle est où
ah bah,
elles ont l'intelligence.
Elle a fumé un joint qui vient tout droit.
Non, je crois que pour revenir sur le sujet d'Allemagne...
T'en as un qui braille, tout le monde suit.
Pour revenir sur le sujet d'Allemagne, les Allemands, si tu veux, c'est l'après-guerre. Et l'après-guerre, si tu veux, ils ont... étaient accusés de tous les camps de concentration, ils étaient accusés de tout le mal qu'ils avaient fait. Et donc, ils avaient un seul désir, c'est évidemment que tout ça, ça l'oubliait.
Oui, bien
sûr.
L'oublier. Et de le rejeter. Donc, ils rejetaient le militaire, rejetaient le nucléaire, rejetaient... Bon. Et donc, ils se sont jetés à corps perdu dans, effectivement, cette veine écologiste,
aussi,
dans cette veine verte, dans cette veine, je dirais, anti-américaine, anti-nucléaire.
Anti-militariste,
exactement. Donc... on retrouve ça sur les barricades en 68, et on retrouve ça ensuite, 15 ans après, dans les gouvernements, effectivement, français de Mitterrand, et puis
Daniel
ensuite
Wester.
Dans les suivants, avec, effectivement, un certain nombre de personnes qui sont complètement pilotées, si tu veux. Et il faut savoir que dans
mais
la...
consciemment, ou un... moi, c'est ça qui m'interpelle. Bah,
je pense qu'il y a une vraie manipulation.
Ils sont financés ?
Je pense qu'ils sont financés, bien sûr. Ils touchent des enveloppes. Et ils ont intérêt à développer ça de manière à pouvoir... mettre en place une politique. Et donc, comme leur parti est soutenu, eh ben, c'est leur intérêt d'être dans le parti et de
ben
pouvoir
voilà.
être député, de pouvoir être sénateur et de pouvoir vendre leur crèmerie.
Bon. Donc,
oui.
Ouais.
Voilà.
À la suite de ça, il y a
un
eu...
mouton.
Nous avons perdu.
À la suite de ça, moi, j'ai découvert qu'il y avait en France un ministère... Dans certains ministères, il y avait effectivement...
Oui, des bureaux.
Des bureaux où il y avait des Allemands avec des écologistes qui, je dirais... Voilà, disait, il faut faire ci, il faut faire ça. Et puis, sur la base de, c'est l'amitié franco-allemande.
Sur la base d'une amitié franco-allemande.
Qui, en fait, était une véritable manipulation, une véritable tromperie. Parce qu'à la tête de l'Allemagne, il y a des gens qui sont intelligents et qui savent que ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ne veulent pas une France
nucléaire.
Qui soit forte. Non,
nucléaire.
Mais ils ne veulent surtout pas une France. Ouais. De Gaulle a permis qu'il y ait une France qui soit forte, qui a permis une France qui rayonne dans le monde, qui ait une diplomatie qui soit reconnue, aussi bien en Amérique du Sud qu'en Afrique, etc. Et même en Chine, puisque les premières relations internationales entre la Chine et un pays extérieur, c'était avec la France, avec De Gaulle.
Donc
c'est clair qu'il y a aujourd'hui, la France avait une première place que les Allemands ne supportaient pas. Et quand ils se sont alliés, ils espéraient, et ils ont fait en sorte que dans le cadre de l'Union européenne, on a, au niveau de la Commission européenne, ils ont pris avec les Anglais un certain nombre de postes clés. Où, effectivement, ils pouvaient conduire leur politique. Et les Français préféraient faire des grands discours. Et je dirais que les petites mains allemandes et les petites mains anglaises, et j'ai des exemples précis, forgeaient toute l'administration de manière à, effectivement, imposer des normes très strictes, imposer que l'on casse, je dirais, les grands groupes comme EDF, que l'on casse les grands groupes comme Alstom, etc., etc., etc.
Ce qui est le cas.
D'ailleurs, la présidente de la Commission européenne est allemande.
Mais bien sûr, aujourd'hui. Mais il est clair qu'à travers tous ces exemples que je donne, on aboutit à ce que EDF, aujourd'hui, a encore des réacteurs nucléaires qui marchent. Et j'espère qu'on va prendre conscience et qu'il faut que tous ceux qui nous écoutent puissent autour d'eux, je dirais, véhiculer, je dirais, une autonomie française, une indépendance de la France à partir de ce savoir-faire que la France a développé pendant des années. On a un véritable savoir-faire.
Au même titre que la gastronomie.
Et en plus, au niveau CO2, eh ben c'est complètement
en Allemagne.
Au niveau
non, en France,
carbone.
Des centrales nucléaires.
Non, ils n'y arrivent pas justement. C'est
au niveau carbone,
c'est ce qu'ils disaient.
Oui, on a effectivement.
Ils essayent, mais ils n'y arrivent pas. Il y a beaucoup de centrales. Ils ne rouvrent pas de centrales. Ils essayent de rouvrir les centrales nucléaires en France, mais il y en a trois à l'arrêt.
Alors actuellement 11. Il y en a 11 à l'arrêt.
11 à l'arrêt. Il y a des travaux.
Tout à fait.
Et
on demande d'ailleurs.
Une en construction. Donc il y a toujours donc celle qui est en construction avec donc la nouvelle formule. Qui va être construite toujours pareil à côté de Flamanville, mais ça, elle met du temps à se mettre au point. Et pourquoi on a des difficultés pour la mettre au point? Parce qu'effectivement, là aussi, on a été torpillés au milieu des ingénieurs, etc. Parce que quand on a séparé
Alstom...
Toi, tu
Alstom, considères qu'il y a des ingénieurs qui travaillaient pour le...
Parce qu'il y avait la France compte encore des ingénieurs qui sont capables de faire tout noyau dur. Mais on a maintenant General Dynamics qui... General Electric.
Il y a colonel,
qui,
il y a général.
Effectivement, on a General Electric qui, effectivement, au niveau des centrales nucléaires et de la maintenance des centrales nucléaires, participe aux travaux.
D'accord. Donc
pour une partie. Et donc ça, c'est quand même pas bon.
Mais pourquoi on les laisse?
Parce que
il y a
un ancien ministre des Finances qui aujourd'hui est président, qui a effectivement signé
Emmanuel.
Signé le démantèlement d'Alstom.
Emmanuel, si tu nous écoutes.
Alors, au sujet, justement, tu parlais de l'EPR à Flamanville. Oui. Bon. Voilà, pour en avoir entendu parler plusieurs fois, notamment par les médias locaux là-bas. À chaque fois, enfin, c'est quoi ça? Ça a eu 10-12 ans de retard à chaque fois parce que soi-disant il y avait des fuites, parce qu'il y avait ci,
parce que tout simplement il n'y avait pas la volonté politique et qu'il y avait en face un certain nombre d'organismes qui étaient contre. Exactement. Ah, alors ouais. Je voudrais finir sur l'histoire du mix énergétique. Oui, c'est que il faut bien savoir que les 40% du mix énergétique, je dirais, coûte, d'après le rapport de la Cour des comptes, ça coûte 90 milliards. Ça a coûté 90 milliards. Alors que le mix énergétique concernant les 1,6% des éoliennes coûte 250 milliards à la France.
Et on les trouve où, cet argent?
C'est-à-dire, non, c'est ce que ça a coûté. Et ce que ça coûte.
Dans le budget.
C'est exactement. Ce qui veut dire
plusieurs
que
années.
Aujourd'hui, il faudrait arrêter tout ce qui est éolien.
Parce que ça
économiser, ça coûte 250 milliards.
Et c'est pas écologique.
Et c'est pas écolo en plus.
Mais non.
On le sait bien. Bon. Mais les écolos, encore.
Et c'est pas beau dans le paysage. Tout, voilà. C'est pas très esthétique.
Il faut arrêter toutes les subventions aux éoliennes parce qu'aujourd'hui, ça
là,
ne produit
des choses qu'on
rien.
On devrait pas dire dans une radio.
Henri,
parce que...
les éoliennes terrestres, mais les éoliennes maritimes.
Et là, on en parle
pire,
de plus
peut-être
en plus.
Encore.
Est-ce que
c'est
tu
pire
sais,
pour les poissons.
Est-ce que tu sais ce qui s'est passé en décembre dernier?
Il n'a pas donné son avis.
En décembre dernier, qu'est-ce qui s'est passé? On a arrêté un réacteur nucléaire pour permettre que l'énergie éolienne puisse fournir de l'électricité. On n'en avait pas besoin.
C'est complètement débile.
Bon,
c'est...
mais oui.
Mais est-ce que le progrès n'a pas un prix?
Non, mais c'est pour que
non,
les...
c'est pas une question de...
Non, mais c'est pas est-ce que le progrès...
Là, c'est pas une question de progrès.
Pas
là, c'est une question, je dirais.
Est-ce que ça coûte pas cher?
Il y a trois questions qui se posent. Est-ce qu'on n'avait pas la possibilité d'investir en personnel pour, je dirais, toutes les nouvelles centrales nucléaires?
Ah bah oui.
Et là, on aurait eu, au niveau des ressources humaines, beaucoup de personnel, ouvriers, ingénieurs, techniciens,
voilà.
Et des chercheurs. Bon. En revanche, au niveau des éoliennes, aujourd'hui, on a gaspillé énormément d'argent.
Oui, bah, tu le dis, là.
Voilà,
250
il faut bien
milliards.
L'entendre.
Oui, on l'entend.
Et c'est catastrophique.
Et c'est pas très...
Que, et en plus, ça rend... Enfin, les résultats ne sont pas...
Mais viens de te le dire.
Puis en plus, on exproprie les...
Tu précises.
Mais je reprécise.
Il y a une expropriation des terrains également.
Il t'a dit 1,6% de la totalité de l'électricité. C'est rien.
C'est pédale.
Mais le nucléaire, c'est 40. Est-ce que tu peux donner les autres postes? 40 nucléaires.
J'ai pas tout, mais après, t'as de l'hydraulique.
L'hydraulique.
Et puis, tu as du...
Quel est l'avenir?
Attends, parce que je pose une question.
J'ai pas tous les éléments là.
T'as pas?
Mais je te donne les...
40 nucléaires, 2% l'éolien, l'hydraulique.
Beaucoup, t'as de l'hydraulique, le reste.
Ok. Tu voulais poser une question?
Quel est l'avenir?
Eh ben moi, je pense que l'avenir, c'est...
C'est nucléaire, bon.
L'avenir, c'est défendre...
Pour Perron, pour Colonel, pardon.
L'avenir, c'est défendre des intérêts de la France.
Oui, donc ça passe par
et
le nucléaire.
À travers tout,
ouais.
Tout,
oui, okay, on entend.
À travers les hommes politiques, oui. À travers les gens qui sont dans la fonction publique, ouais, les fonctionnaires. Et il faut que tous ces gens-là entendent qu'il faut défendre les intérêts de la France et que c'est l'intérêt de leurs enfants, de leurs petits-enfants.
Ah bah
et
oui.
Qu'à un moment donné, au lieu de faire toujours des concessions, parce qu'on veut l'Europe, on ne peut pas avoir l'Europe n'importe comment.
Et
aujourd'hui... Il faut quand même le savoir, c'est que les accords aussi entre les pays de l'Est de l'Europe et les États-Unis sur un certain nombre de sujets pénalisent la France aussi. Donc il y a aujourd'hui, si on se laisse faire, on va se faire complètement bouffer.
C'est ça. Par contre, nos clients restent aussi les pays européens.
Aujourd'hui,
si t'as de l'électricité
aujourd'hui
avant,
les premiers clients, c'est le boulanger. Et
oui,
puis
oui,
c'est...
en France.
En France, souffre de cette situation.
Oui, oui, on l'entend. Ah oui, tout à fait. Oui, par rapport actuellement, bah, surtout oui, actuellement.
Bah, écoute, aujourd'hui, c'est...
Véhicule,
c'est... Attends, aujourd'hui,
sur du court terme, c'est ça.
Il faut,
en fait.
Il est nécessaire aujourd'hui qu'il y ait des protestations sur tout le territoire français pour
mais
dire les Portugais, les Espagnols ont obtenu.
Oui, tu veux quitter l'accord.
Quitter l'accord sur le gaz.
Les Espagnols, c'est pas les Français. Colonel.
Non, mais
les Espagnols,
au niveau de l'Union européenne, on est sérieux et on parle au niveau de l'Union européenne. Ah, oui. Au niveau de l'Union européenne, les Espagnols et les Portugais, très habilement, ont quitté, je dirais, l'ajustement au prix du gaz.
Donc c'est ce que je te dis. C'est
les
Espagnols et les Portugais, ce sont
c'est
pas
autre
les
chose,
Français.
Hein.
C'est ce que je te dis.
Oui, mais ils sont plus. Plus voilà. Voilà.
Ah bah,
mais du coup,
sont pas comme
est-ce est-ce qu'il existe aujourd'hui dans. Des gens qui souhaitent quitter cet accord-là, et est-ce que c'est possible de le faire?
Bah, c'est pas l'intérêt de
le
de
problème,
la
c'est qu'aujourd'hui, il faut une volonté politique de se heurter. Une volonté politique de se heurter, je dirais, à tout le lobby, je dirais, qui est derrière ça, ouais. au niveau du gaz, au niveau des Allemands, au niveau des Hollandais, des Anglais, etc. Même si l'Angleterre est sortie, il y a quand même des lobbies qui sont assez proches du monde anglo-saxon et des Américains. Et donc aujourd'hui, est-ce qu'on veut se heurter à ça ? Moi, je pense qu'il faut avoir le courage de dire ça. Il faut dire oui.
Mais tant que ça se fasse, malheureusement, les boulangers, ça, ils sont à 6 mois. Là, même pas, ils sont à un mois, au mois près, deux mois près, trois mois près.
Il y a une connerie aussi pour la manifestation des boulangers de tous les commerçants. Là. Il y a une connerie aussi. Ils ont demandé à voir une aide d'État pour payer la facture d'électricité. Mais ce n'est pas comme ça qu'il fallait voir la chose. Il fallait demander une diminution de l'électricité, du prix de l'électricité, au lieu de demander
mais
une...
Ils ne peuvent pas, mais sauf qu'ils ne peuvent pas.
Oui, mais ils ont fait les choses
demandent,
à l'envers.
Il faut qu'ils demandent que les autorités politiques françaises cassent l'ajustement au gaz.
Voilà, c'est là, ils, ça ont demandé, ils ont demandé d'avoir une aide avec l'État pour payer les factures d'électricité. Mais c'est complètement débile.
Mais l'État, il ne peut pas casser, parce qu'avec l'Europe, il ne peut pas. Donc il est obligé de faire le... C'est lui qui paye.
Voilà, pour pouvoir être
non, mais là, c'est pas l'Europe, c'est l'accord. C'est l'accord.
Que les aides,
c'est ce qu'il dit. C'est l'accord.
Voilà.
Sur le... En fait, le prix de l'électricité, c'est ce qui t'explique. Il est lié au prix du gaz.
Oui, voilà. Avec l'accord.
Il est lié au prix du gaz. Parce qu'ils ont signé, ils se sont dit, on allie les deux. Et du coup, les Espagnols et donc, les Portugais ne l'ont pas fait.
Ouais.
Donc les Français.
Ils l'ont refusé.
Ils ont accepté cet accord-là. Ils auraient dû le refuser. Parce qu'aujourd'hui, on serait plus libre de fixer un prix correct.
Voilà,
on gagnerait de l'argent parce que ça serait et on n'aurait pas besoin de subventionner.
Bah,
parce qu'ils subventionnent. Donc, en plus, non seulement et sur le marché, c'est très serré, mais en plus, ils subventionnent nos boulangers. Mmh. Alors, c'est un pays qui n'a jamais sorti autant d'argent.
C'est vrai qu'ils
peuvent sortir autant d'argent qu'ils le souhaitent.
Oui, bien sûr.
En prenant un petit peu de recul, on s'aperçoit quand même que tout ça, c'est piloté par les Américains et que les Allemands eux-mêmes se sont fait avoir. Les Allemands ont été instrumentalisés par les Américains pour effectivement torpiller le nucléaire français. Bon. Et toute l'énergie française. Si, on a les éléments pour le dire.
Bah, c'est ce que
et on le voit aussi sur Areva. Mais aujourd'hui, il y a un retour de bâton.
Oui.
C'est que les Allemands ne pensaient pas qu'avec l'accord dont je vous ai parlé, qui avait lieu avec Bush, ils ne pensaient pas que les Américains se retourneraient contre eux.
Parce que les Américains, c'est le cas parce qu'ils privilégient les pays de l'Est.
C'est bizarre, c'est pas la première fois que ça arrive.
Alors, les Américains... Non, mais attends. À quel moment, dans les derniers mois, à quel moment on a constaté que... Les Américains étaient contre les Allemands.
Alors moi je te dirais sur le truc du gaz avec ils ont torpillé leur
donc le gazoduc,
donc
leur Stream 2 etc et leur Stream 1 qui ont été explosés.
On dit pas enfin officiellement c'est pas les Américains.
Aujourd'hui
officieusement,
on a suffisamment d'éléments pour savoir qu'il ne peut y avoir qu'un État à 80 mètres sous l'eau.
Peut-être la Suède.
Ça ne peut être qu'un État avec un sous-marin pour accéder à ça.
Ça peut être la Suède.
Avec l'aide de qui ? Ok. Ce que je veux dire, c'est que très clairement, les Allemands qui avaient fait cet accord avec les Russes pour avoir un gaz pas cher, les Américains ne veulent pas d'une Allemagne puissante. En gros, les Allemands ne voulaient pas d'une France puissante. Les Américains ne veulent pas d'une France et d'une Allemagne puissante. Et donc, chacun joue tout. Voilà. Et on casse l'un et on casse l'autre.
Mais c'est pas la première fois.
Si on se défend pas. Donc, il faut aussi être conscient que nous avons à être vigilants et à essayer quand même de défendre les intérêts de la France plutôt que de se laisser faire. Et c'est là où il faut regarder un peu tout ce qui concerne l'intelligence économique sur Internet, de manière à ne pas, je dirais, être naïf et de ne pas dire « Ah bah oui, c'est bien, ils sont gentils les Américains, ils sont gentils les Allemands. » Bien sûr, ils ont des qualités et je les aime bien. Mais il faut pas être naïf.
Est-ce que tu aimes les Américains et les Anglais ?
Beaucoup.
Eh ben merci, c'est sur ces belles paroles que,
Dieu
nous retrouvons dans quelques instants. Restez avec nous. Colonel, Père Henri, vous l'aurez compris, sont tous les deux présents cette fin de sujet.